veut dire?
Qu'est-ce que ça
implique? Qu'est-ce la vérité?
Pourquoi
RFI?
RFI
dit ça.
Pourquoi RFI dit ça? Julia Trangeval.
Bonjour, lundi 20 janvier, Donald Trump deviendra officiellement le 47e président des États-Unis et avec lui, allons-nous entrer dans une nouvelle ère où les réseaux sociaux seront dangereux, synonymes de manipulation de l'opinion. Reste-t-il de la place aujourd'hui pour informer ? Steven Jambeau, le producteur de l'atelier des médias, est en studio avec nous. Et puis, vous vous intéressez à la guerre en Ukraine et à la présence de ces soldats nord-coréens signalés côté russe. Alexandre viendra faire le point. François Bayrou, lui, est déjà sur la sellette. Déclaration de politique générale accueillie tièdement. Première motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre français cette semaine. Dans une vingtaine de minutes, Frédéric Jeannot revient sur cette expression très courante en politique, mais assez indéchiffrable.
My social media is very powerful. And if I didn't have social media, I probably wouldn't be here.
Aux États-Unis, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump a des racines sociales et économiques, mais ce sont aussi les réseaux sociaux qui ont fait son élection. X, Facebook, Instagram, des réseaux pour socialiser d'abord, ensuite pour s'informer et qui pourraient se transformer en une formidable machine à manipuler l'opinion. La perspective inquiète en tout cas l'Union européenne et les professionnels de la presse. Bonjour Steven Jambeau, vous auscultez l'actualité des médias à l'ère du numérique toutes les semaines dans votre émission. Quel rôle peut alors jouer un média traditionnel comme le nôtre dans notre époque ?
Alors pour faire simple, si on regarde par exemple un site d'information comme celui d'RFI, si on regarde les audiences du site internet d'RFI, elles se divisent de trois façons, on va dire. 60% du trafic sur le site internet de RFI est ce qu'on appelle de la notoriété de marque, c'est-à-dire des gens qui vont sur la page d'accueil de RFI ou qui ouvrent l'application de RFI. Voilà, ça c'est 60% de l'audience. 30% de l'audience, c'est de la recherche, des moteurs de recherche, Google, dans son immense majorité. Et les 10% restants, eh bien, ce sont des réseaux sociaux ou d'autres sources de trafic de type infolettre, newsletter ou autre. Voilà, donc cette proportion-là, c'est le trafic entrant du site internet de RFI. C'est pour vous dire un peu la proportion. Donc de vous dire que les réseaux sociaux, certes, sont là, ils sont hyper présents, mais ils ne représentent pas non plus tout. Donc si demain le choix était fait de ne plus aller sur telle ou telle plateforme, eh bien on ne se couperait pas un bras non plus, puisque les gens savent que les médias comme RFI ont des environnements propres. Et l'enjeu actuellement, c'est de se dire que tout ne se passe pas sur les réseaux sociaux, qu'il y a également nos sites, nos applications qui sont des environnements sur lesquels nous, médias, avons la main et sur lesquels nous vous diffusons de l'information de qualité produite avec rigueur, avec honnêteté, avec des standards d'éthique et de déontologie que tout le monde ne partage pas forcément.
On a l'impression que les réseaux sont devenus une formidable machine à fabriquer de l'opinion et peut-être plus tellement à fournir de l'information qui éclaire sur le monde. Pour une entreprise comme Radio France Internationale, pour laquelle on travaille, vous et moi, c'est compliqué ?
On va dire que c'est compliqué parce qu'effectivement, les réseaux sociaux ont été une chance pour de nombreuses personnes à travers le monde. On se souvient des printemps arabes, par exemple, qui se sont passés sur Facebook. Et donc, pour nous, journalistes, on devait se servir des réseaux sociaux. Et on se servait des réseaux sociaux comme un territoire d'enquête, de reportage, puisque avant les réseaux sociaux, eh bien, c'est les journalistes qui rédigeaient le premier brouillon de l'histoire. Mais avec les plateformes sociales, tout un chacun, avec un téléphone portable, était en mesure de référencer le présent, de prendre des photos, de faire de la vidéo. Et donc nous, journalistes, eh bien, on a dû se saisir de ces plateformes-là pour raconter l'histoire autrement. Et on se rend compte maintenant eh bien, que ces plateformes-là sont de plus en plus utilisées pour diffuser de la désinformation. Donc on doit faire preuve de davantage de vigilance qu'auparavant.
Comment on fait preuve de plus de vigilance qu'auparavant ? C'est quoi les bonnes armes d'un journaliste pour aller sur les réseaux sociaux alors que ce soit X ou que ce soit Facebook, on voit qu'il n'y a plus de fact-checking ou qu'il n'y en aura plus bientôt ?
C'est toujours déjà d'être vigilant, de faire preuve de bon sens, de se poser plusieurs fois la question de savoir cette matière-là, cette photo que je vois, qu'est-ce que c'est ? Qui la diffuse ? Y a-t-il quelque chose, quelqu'un, une idée derrière ? Et puis aussi, c'est bien de décrocher son téléphone, parfois tout simplement, pour passer des coups de fil, savoir si c'est vrai, oui ou non, et d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre des gens pour faire notre métier qui est bien, l'enquête, le reportage.
On parle des réseaux sociaux, c'est une source d'information pour de nombreux auditeurs, jeunes ou moins jeunes. Est-ce que c'est la principale source d'information aujourd'hui ?
On va dire que c'est une source d'information qui est gratuite. Tout un chacun. On ne paye pas pour s'inscrire sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp. Donc, il n'y a pas ce coût à l'entrée que représente le fait parfois bien d'acheter un journal, de payer pour avoir accès à telle ou telle source d'information. Donc, c'est vrai que pour plein de gens, la première chose qu'ils font le matin, eh bien, c'est de prendre leur téléphone portable et de regarder leur compte Facebook. Ils consomment de l'information sur les réseaux sociaux. Oui, on peut dire que ils trouvent de l'information sur ce réseau-là, qu'ils le veuillent parfois ou non. Et ils ne font pas toujours la démarche d'aller sur des médias traditionnels, de regarder la télévision, d'écouter la radio et de faire attention à bien s'informer sur des sources qualifiées de fiables. Même quand on ne veut pas s'informer, on a de l'information qui vient à nous et parfois beaucoup du coup de désinformation aussi.
Vous parliez du coût, mais écouter RFI ou aller sur le site de RFI, c'est gratuit.
Oui, effectivement, c'est gratuit, mais tout le monde n'a plus forcément cette démarche-là. Il faut que certains médias aussi se remettent en question. Et donc, on se pose toujours la question, en tant que journaliste, à qui je parle et comment je parle à cette personne. Alors, certains médias se mettent à parler autrement, à changer leur format, la façon de produire de l'information, la façon peut-être parfois de parler dans le micro. Et c'est là que certains médias réussissent à tirer leur épingle du jeu en travaillant le ton. Par exemple, à parler autrement, essayer de parler aux gens en étant plus proche d'eux. Mais il faut que ça sonne vrai. Et pour nous, il faut revenir aux fondamentaux en tant que journaliste. C'est d'aller à la rencontre des gens, de produire de l'information de qualité, de faire entendre les voix d'un côté, les voix de l'autre. Pourquoi ? En essayant de tirer nos auditeurs par le haut, en se disant que tout le monde est intelligent. On n'est pas là pour dire aux gens comment ils doivent penser, mais leur donner les clés pour qu'ils réussissent à faire quoi ? À être des citoyens, des gens bien informés qui soient éclairés.
Est-ce que pour aider les gens qui vont malgré tout aller toujours aussi sur les réseaux sociaux, il faut de l'éducation aux médias, il faut multiplier les actions de fact-checking ?
Alors, l'éducation aux médias, pour moi, effectivement, elle est fondamentale. Et à tous les âges, puisqu'on a toujours tendance à dire l'éducation aux médias, c'est il faut apprendre aux jeunes à bien s'informer, aux collégiens, aux lycéens, aux jeunes étudiants, de savoir où aller pour bien s'informer. Mais en fait, des études ont montré que celles et ceux qui diffusent le plus de désinformation sont plutôt des gens de 50, 60 ans, souvent des hommes d'ailleurs, qui derrière leur ordinateur diffusent tout et n'importe quoi. Donc oui, l'éducation aux médias et à l'information est fondamentale. Ça veut dire quoi ? Savoir qu'est-ce qu'un média de qualité ? Donc se poser la question de à qui appartient ce média ? Ça veut dire aussi savoir diversifier ses sources d'informations. On a dans le monde actuel pléthore de médias sur lesquels on peut trouver de l'information de qualité. Ensuite, le fact-checking, vous en voyez partout. Effectivement, c'est fondamental que de faire du fact-checking. Mais il faut que les journalistes, parfois, ne perdent pas trop d'énergie à vouloir fact-checker des choses qui sont sans intérêt ou alors qui sont justement de la fausse information qui est produite à dessein pour faire que des fact-checkers perdent leur temps sur ces contenus-là. Donc, se poser la question pour les journalistes de savoir ce qui est de l'ordre du signal fort, du signal faible. S'il y a une entreprise de désinformation et que l'on voit des contenus de désinformation envoyant de façon majeure des bombes de désinformation de dizaines de milliers de postes envoyés à tel endroit, cela peut valoir le coup de s'en emparer. Mais il faut faire attention de ne pas perdre de vue que parfois, cette désinformation, elle est produite volontairement avec ce côté tapis de bombe pour que des journalistes et des fact-checkers foncent dedans, tête baissée, avec le risque qu'ils passent à côté d'une autre information beaucoup plus intéressante et importante, celle-là.
D'accord, donc du fact-checking, oui, mais à bon escient, il faut repérer l'information qui est valable. Est-ce qu'on peut citer un exemple d'information qu'on n'aurait pas besoin d'aller fact-checker ?
Si je vous disais, par exemple, qu'aujourd'hui, à Paris, il y a eu des torrents de boue qui ont dévalé du Sacré-Cœur de Montmartre jusqu'au Moulin Rouge, que je vous diffuse une vidéo, je vous montre une vidéo et je vous dis « Regarde, regarde, regarde ces images, c'est incroyable et tout !» et que cette vidéo-là, elle est très partagée par des gens à l'autre bout du monde. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de fact-checker ça ou de perdre du temps à appeler la mairie de Paris, à nous, journalistes, se rendre sur place pour prendre une photo du Sacré-Cœur et du Moulin Rouge et de voir qu'effectivement, bah, bien non, il n'y a pas d'eau qui est en train de couler actuellement. D'ailleurs, il n'a pas vraiment plu aujourd'hui, ça n'a pas été le déluge à Paris. Non, je ne vais pas perdre le temps à fact-checker ce genre de choses. Il y a beaucoup d'autres choses qui méritent de l'intérêt et... Il faut aussi réaliser que produire des images, que ce soit des photos ou des vidéos à partir d'intelligence artificielle, coûte de moins en moins cher. Donc on comprend pourquoi eh bien, on voit de plus en plus de matières sur les réseaux sociaux qui sont diffusées. Et donc à nous, journalistes, d'être de plus en plus vigilants.
L'atelier des médias, c'est sur l'antenne de RFI tous les dimanches à 11h10 temps universel. Merci Steven.
Les chiffres sont invérifiables, mais l'Ukraine estime qu'au moins 10 000 soldats nord-coréens sont déployés, une présence qui interroge.
10 000 soldats nord-coréens, au moins des pertes considérables, mais jusqu'à la semaine dernière, pas d'image, au point que certains ont pu parler de soldats fantômes. Comme pour la présence de Camerounais aux côtés des forces russes, des auditeurs de RFI mettent souvent en cause nos informations sur la guerre en Ukraine. Alors s'agissant des soldats nord-coréens, c'est Franck Alexandre, notre spécialiste défense, qui vous répond cette semaine. Bonjour Franck.
Bonjour Juliette.
Aujourd'hui, on en sait un peu plus sur ces hommes.
Oui, on va regarder d'abord dans le rétroviseur, Juliette. La présence nord-coréenne est évoquée depuis l'automne. Kiev, alors, avait alerté sur l'arrivée d'un contingent d'un peu plus de 10 000 soldats déployés sur le front de Koursk. Le front de Koursk, vous savez, c'est cette poche ukrainienne au nord-est du pays, en territoire russe, résultat d'une offensive surprise l'été dernier dans cette région qui a été mal défendue par l'armée russe. Selon l'état-major ukrainien, ces supplétifs nord-coréens intégrés à l'armée russe et n'intervenant pas comme une force autonome, à qui l'on aurait confié par exemple une partie du front, ont été très utiles à Moscou pour lui éviter de faire une balance d'efforts, en fait envoyer des troupes depuis le front du Donbass vers Koursk, le Donbass qui reste le principal objectif des Russes.
Mais ni Moscou ni Pyongyang n'ont reconnu que des troupes coréennes avaient été déployées pour combattre les forces ukrainiennes.
C'est vrai, en décembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait dit que près de 3000 soldats nord-coréens avaient été tués ou blessés. Il était précisé que des notes retrouvées sur des soldats morts indiquaient que les autorités nord-coréennes faisaient pression sur ces soldats afin qu'ils ne se rendent pas. Ordre leur était donné de se suicider plutôt que d'être fait prisonnier. Mais vous l'avez compris, Juliette, là on est dans le narratif, un récit dicté par Kiev et ce n'est pas une preuve tangible.
Jusqu'à samedi dernier, Franck, et l'annonce de deux prisonniers nord-coréens.
Oui, annonce faite à grand renfort d'images de leur interrogatoire, images rendues publiques à la fois par le renseignement ukrainien, le SBU, mais aussi par le renseignement sud-coréen, le NIS, qui a participé au débriefing de ces soldats. Les vidéos montrent les deux prisonniers sur des lits d'hôpitaux, avec des bandages sur les mains pour l'un, sur la mâchoire pour l'autre. Des images qui donnent corps à la véracité de cette présence nord-coréenne. Surtout, ce qui est intéressant, ce sont les sources sud-coréennes. Et nous avons joint Stéphane Lagarde, notre ancien correspondant pour RFI à Pékin, qui est de passage en Corée du Sud.
Le NIS, le service de renseignement sud-coréen, a été auditionné par le Parlement à Séoul en début de semaine. Et le NIS a confirmé sa présence aux interrogatoires des deux Nord-Coréens en Ukraine.
Et voilà ce que nous dit Stéphane Lagarde. Des informations ont filtré. Le NIS aurait d'abord parlé de ses soldats comme d'une chair à canon et pointer une mauvaise préparation au terrain, ce qui expliquerait ses pertes importantes. Les Nord-Coréens n'étant pas habitués à ces grandes plaines occidentales où on évolue à découvert, ils ne sont surtout pas préparés à la guerre moderne sous la menace des drones. Pour illustrer cette présence, il y a enfin de nombreuses vidéos produites souvent par des blogueurs ukrainiens, il faut le préciser. Ce sont des informations à prendre avec des pincettes, mais sur l'une d'elles, on peut voir un soldat qui, pour ne pas se laisser prendre, dégoupille une grenade et au dernier moment, au moment de mourir, il hurle « Vive le général Kim Jong-un ». Il existe donc, Juliette, un faisceau d'indices sur cette présence de soldats nord-coréens en Ukraine, conforté par le travail parlementaire sud-coréen, un parlement véritablement démocratique.
Franck, est-ce que l'on sait pourquoi ces soldats nord-coréens, puisque maintenant on sait qu'ils existent, est-ce qu'on sait pourquoi ces soldats nord-coréens sont là ?
Alors, la Russie et la Corée du Nord ont resserré leurs liens militaires depuis l'invasion de l'Ukraine. Les deux pays sont notamment liés par un pacte de défense mutuelle ratifié en novembre dernier. On se souvient qu'en 2023, Pyongyang a fourni beaucoup de matériel militaire à la Russie. qui est alors un petit peu à la peine, en particulier dans le domaine de l'artillerie, avec la fourniture de plus d'un million d'obus. Le dictateur Kim Jong-un fournit ce qu'il possède en masse, des canons et des hommes en contrepartie, supposent les services de renseignement sud-coréens, d'une aide technologique, et ce dans deux domaines dans lesquels, elle, la Russie, excelle, ce sont les missiles balistiques et le spatial, les satellites dédiés au renseignement et au guidage des missiles.
Merci Franck Alexandre. Et l'on retrouvera ce sujet de la Corée du Nord dans votre chronique ce week-end. Ligne de défense consacrée donc à ces soldats nord-coréens. À
merci.
Bientôt.
Pourquoi RFI.
Le verbe limoger, oui. Eh bien ça ne devrait pas exister.
Personnellement, je suis très heureux d'être ici.
Donc vous n'avez pas l'impression, vous, d'être limogé?
Certainement pas.
On aurait pu prendre aussi une autre ville du nord de la France pour remplacer Limogé.
Hasbrouckais, par exemple.
Par exemple.
Pourquoi RFI dit ça comme ça? Bonjour Frédéric Genot.
Bonjour.
Alors, une jeune auditrice que je connais nous fait savoir qu'elle ne comprend pas certains termes que nous utilisons, notamment dans le domaine politique. Et elle cite ce mot, limogeage.
Son interrogation est légitime, Juliette, puisque le substantif limogeage ou le verbe limoger, nous les employons en nous souvenant parfois vaguement qu'il est question de la ville de Limoges et que ce n'est pas flatteur pour la localité. La seule certitude, c'est qu'être limogé signifie se faire renvoyer brutalement. Être licencié, être remercié, on y met le mot qu'on veut, mais on perd son poste sans espoir de le récupérer.
Alors, quelle en est l'origine?
En août 1914, on en est au tout début de la Première Guerre mondiale. La tactique privilégiée, c'est de mener une offensive éclair dans l'Est. Cela ne se passe pas du tout comme prévu. Non seulement les Allemands sont positionnés tout le long de la frontière et résistent, mais en plus, ils réussissent une percée en passant par la Belgique. On se demande même si Paris ne va pas être menacé. Des dizaines de milliers de soldats français tombent au front. En termes de stratégie, c'est une pure catastrophe. Le général Joffre, le chef d'état-major de l'armée, l'attribue à l'incompétence d'une bonne partie de ses généraux qu'il relève de leurs fonctions. En quelques semaines, plus de 150 officiers supérieurs et généraux sont affectés dans de petites villes tranquilles où ils ne risquent pas d'intriguer. Limoges, mais aussi Bordeaux, Dijon, Clermont-Ferrand, si l'on a gardé le terme limogé, ce serait en raison de son euphonie. L'euphonie, c'est le contraire de la cacophonie, ça veut dire qui est bien agréable à l'oreille. « J'ai été limogé » serait plus plaisant à entendre que « j'ai été toulousé », Clermont-Ferranté, Bayonné ou Bordeauxé.
Autre expression politique dont l'origine est historique et peut-être mal connue, être sur la sellette.
Quand on est sur la sellette, on est menacé, critiqué, examiné sous toutes les coutures et ses mauvais signes. Au Moyen-Âge, la selle est un siège de bois à 3 ou 4 pieds, sans dossier, et la sellette est une petite selle. Pour la décrire, on pourrait la comparer au tabouret utilisé pour la traite des vaches. Pendant la Révolution française, l'usage était d'y faire asseoir les criminels pour les juger. Ils se retrouvaient donc dans une situation très inconfortable, assis près du sol, le dos courbé, les pieds enchaînés, avec des juges les regardant de haut et les interrogeant à une époque où ils avaient la condamnation facile. C'était vraiment une épreuve. La sellette a d'ailleurs été abandonnée après la Révolution française et aujourd'hui les prévenus et les accusés sont debout pour témoigner et entendre le jugement. Mais on a gardé l'expression qui est même assez commune.
Allez, une petite dernière pour la route. Elle n'est pas uniquement politique, mais là encore, elle a une origine historique.
Faut-il choisir, Juliette, entre la peste et le choléra? On l'a entendu lors des dernières élections législatives quand les électeurs avaient le choix entre l'extrême droite ou le Front républicain. En deux mots, la peste a longtemps été la maladie qui était le fléau absolu transmise par la puce qui piquait des rongeurs infectés puis des humains. Au XIVe siècle, elle a ainsi provoqué la mort de plus de 40% de la population européenne. Et puis au XIXe siècle arrive le choléra, qui n'est pas une zoonose mais une maladie humaine liée à une bactérie qui est également très contagieuse et qui peut, dans sa forme grave, tuer en quelques jours. D'un point de vue comptable, on pourrait dire que la peste a fait à l'échelle mondiale plus de morts que le choléra. D'un point de vue médical, ça n'a pas de sens, on ne choisit pas ces maladies. Cette expression signifie simplement que l'une comme l'autre ne nous conviennent pas ou nous font franchement peur.
Pourquoi RFI dit ça? À la réalisation, Françoise Grelot, à bientôt.